Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner. Bonjour à toutes et à tous. L'Afrique du Sud ne relâchera pas son soutien au peuple de la RDC qui a droit à la paix et à la sécurité. Déclaration remarquée ce matin du président Cyril Ramaphosa dans la lettre à la Nation qu'il publie chaque semaine, alors qu'il est sous pression de son opinion publique après la mort au combat de 14 soldats sud-africains. Au Burkina Faso, une violente attaque hier matin contre Djibo dans la province du Soum. Des positions de l'armée ont été prises pour cible. Des sources locales avancent un bilan d'une vingtaine de morts. Pas de communication officielle. Le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a revendiqué. Alors que les relations entre Paris et Alger sont au plus bas, le président Abdelmadjid Tebboune dit déplorer un climat délétère entre les deux pays, tout en estimant qu'il faut reprendre le dialogue. Les conséquences n'ont pas tardé après la décision de Donald Trump de suspendre tous les programmes d'aide étrangère des États-Unis. De premiers programmes sont déjà stoppés, notamment en Afrique. Jean-Baptiste Velu, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle et spécialiste de la politique internationale américaine, est notre invité. Et puis le sacre de Thames cette nuit aux Grammy Awards. L'artiste nigériane a remporté le prix de la meilleure performance musicale africaine face à d'autres superstars de l'afrobeat. La situation dans l'est du Congo, au cœur ce matin de la lettre hebdomadaire à la Nation du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Claire Bargelès, alors que 14 soldats sud-africains déployés au sein de la force de l'Afrique australe sont morts au combat depuis l'offensive du M23 et que les critiques enflent sur la scène intérieure, le chef d'État s'explique et justifie cette présence sud-africaine au Congo.
Oui, Cyril Ramaphosa a tenu à répondre ce matin à ceux qui affirment que les troupes sud-africaines ne devraient pas se trouver en RDC. La violence et les conflits en Afrique sont l'affaire de tous les Africains, écrit-il, ajoutant que son pays ne relâchera pas son soutien envers le peuple de la RDC afin qu'il obtienne la paix et la sécurité qu'il mérite à juste titre. Lors d'échanges interposés sur les réseaux sociaux la semaine dernière, la tension était rapidement montée entre Pretoria et Kigali, jusqu'à un échange téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays qui a permis de faire redescendre la pression. Le chef de l'État sud-africain a toutefois tenu à préciser dans sa lettre qu'il relaie l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à exhorter le M23 à se retirer des territoires occupés et les forces externes à se retirer du pays. Quant à l'avenir des forces de la SADC, en très mauvaise posture sur place, Cyril Ramaphosa a assuré que tout serait fait pour que les soldats soient bien équipés et soutenus et que la mission ne pourrait ralentir que lorsqu'un cessez-le-feu sera mis en place.
Claire Bargelès, correspondante de RFI à Johannesburg. J'ajoute que la première ministre congolaise Judith Suminwa a exprimé ce matin sa gratitude à l'Afrique du Sud à l'occasion de l'ouverture de Mining Indaba, la conférence annuelle sur les mines en Afrique qui se déroule dans la ville du Cap. Dans un message vidéo enregistré et diffusé lors de la cérémonie d'ouverture, la chef du gouvernement congolais a aussi condamné le pillage des ressources minières de l'est de son pays utilisées pour financer les conflits. Au Burkina Faso, une violente attaque hier matin contre Djibo dans la province du Soum. Des djihadistes ont pris pour cible des positions de l'armée. Le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, a revendiqué. Pour l'instant, aucune communication officielle ni de l'armée ni du gouvernement. Abdoulaye Diko, total 3 positions de l'armée et des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ont été ciblées.
Oui, Nicolas, l'attaque a débuté très tôt le matin aux environs de 6h heure locale. Selon les témoins joints par RFI, les terroristes sont arrivés du côté nord-est de la ville et les tirs à l'arme lourde ont duré plus d'une heure. Plusieurs sources donnent le bilan d'une vingtaine de morts, des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Près d'une vingtaine de blessés, certains grièvement, et beaucoup de dégâts matériels. Toujours selon des sources jointes par RFI, ces militaires appartiennent au bataillon d'intervention rapide Bure 22. Dans la journée d'hier, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GNIM, a revendiqué la prise de 3 positions militaires dans cette province du Soum, sans donner de bilan ni de détails sur les positions prises. Pour le moment, aucune réaction ni de l'armée burkinabé ni du gouvernement. Rappelons, jeudi dernier, les terroristes avaient déjà attaqué des positions militaires dans cette ville de Djibo, une attaque qui avait été repoussée selon plusieurs sources locales. Cette ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum et région du Sahel, est sous blocus du GNIM depuis près de 3 ans.
De nouveaux éléments sur la mort de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, abattus peu après leur enlèvement à Kidal dans le nord du Mali le 2 novembre 2013. Ils sont apportés ces éléments par le journaliste français Olivier Dubois, qui a lui-même été otage d'Al-Qaïda pendant 2 ans. Dans son livre « Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda » où il raconte sa captivité, Olivier Dubois explique avoir tenu, en poursuivant son travail de journaliste auprès de ses geôliers, qu'il a notamment interrogé sur le double crime de Kidal. Il a ainsi rencontré, 4 jours avant sa libération, Sedana Guitta, l'un des cadres d'Al-Qaïda qui reconnaît être le commanditaire de l'enlèvement de Ghislaine et de Claude, et qui affirme que leur mort est la conséquence du survol d'un avion de l'armée française.
Ça a été un focus pour moi, essayer de savoir ce qui s'était passé. Parce que moi-même, je suis journaliste, moi-même, j'étais dans la région de Kidal, et j'avais l'impression qu'il fallait que, voilà,
je sache. C'était peut-être votre défi majeur, écrivez-vous, voilà, comprendre ce qui leur est arrivé.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, de cette séquence-là?
Il reconnaît le commanditaire de l'enlèvement, mais il me dit quand même à souligner que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre, parce qu'il ne pouvait pas.
Parce qu'il n'est pas sur place, voilà. Il n'est pas avec le commando qui a enlevé Ghislaine et Claude.
Hein. Il n'a pas les moyens, me dit-il, de communiquer avec ce commando. Ouais. Mais c'est lui qui a demandé d'amener les 2 journalistes. Alors, il dit la même chose, oui, le véhicule est tombé en panne, ils sont exécutés, mais il rajoute, comme d'autres djihadistes que durant ces 700 jours, j'interrogerai sur cette question, parlent d'une intervention aérienne ou terrestre, ou les deux. On parle d'hélicoptères, de mirages, de drones, mais quelque chose est venu troubler les djihadistes. Enfin, une intervention aérienne aurait troublé les djihadistes et aurait mené à la mort, me disent-ils, des 2 journalistes. Il y en a même un qui me dira, mais tu sais, cette version-là, elle est connue des djihadistes, il n'y a que vous, en France, qui n'êtes pas au courant. Et nous, on sait tous que ça s'est passé comme ça. C'est compliqué de savoir si c'est vrai, pas vrai.
Ouais, c'est leur
en tout cas,
version.
Elle revient tout le temps, cette version-là, chez eux.
Olivier Dubois, invité ce matin sur notre antenne d'Arnaud Pontus. Soutien de la France au plan marocain pour le Sahara occidental, arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, crise des influenceurs. Alors que les relations entre Paris et Alger sont au plus bas, le président algérien Abdelmadjid Tebboune parle dans la presse française. Dans un entretien au quotidien L'Opinion, Pierre Fiertion, il dénonce un climat délétère entre les deux pays, tout en estimant qu'il faut reprendre le dialogue.
Non, oui, le dialogue politique est interrompu, dit le chef de l'État algérien. Plus rien n'avance, si ce n'est les relations commerciales. Nous perdons du temps avec le président Macron. Et Abdelmadjid Tebboune de pointer du doigt, je cite, les déclarations hostiles tous les jours de politiques français, ciblées notamment le ministre de l'Intérieur. Tout ce qui est de Retailleau est douteux compte tenu de ces déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays, déclare-t-il, pour justifier l'arrêt de la coopération entre les services algériens et la DGSI. Dans cette interview, le président algérien revient sur l'origine de la crise, la reconnaissance par la France du plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Vous faites une erreur, vous n'allez rien gagner et vous allez nous perdre, répond-il en juin à Emmanuel Macron lorsque ce dernier lui annonce son intention de franchir le pas. Abdelmadjid Tebboune estime, je cite, que Boualem Sansal n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Malgré ces critiques, le chef de l'État algérien se dit totalement d'accord pour une reprise du dialogue entre les deux pays. Encore faut-il que le président français, les intellectuels, les partisans de la relation puissent faire entendre leur voix, estime-t-il. Pour permettre la reprise de cette relation, il est indispensable, selon lui, de régler un contentieux, celui des réparations relatives aux essais nucléaires réalisés par la France en Algérie.
En Guinée, la candidature du général Mamadi Doumbouya à la future présidentielle se précise. Il ne s'est pas officiellement prononcé sur la question, aucune date d'ailleurs n'a été fixée. Mais ce week-end, lors d'un meeting dans la ville de Cancan, à la gloire du président de la transition, les appels en faveur de son maintien au pouvoir se sont multipliés. Sidi Yansané, dans un long discours, le porte-parole de la présidence a notamment déclaré que la candidature du général Doumbouya était une évidence.
Oui, Saint-Nicolas, samedi dernier à Cancan, ville natale du général Doumbouya, se tenait une marche de l'unité et de la paix qui a rassemblé des milliers de personnes, dont plusieurs ministres réputés comme fervents partisans du président de transition, tels que Fana Souma à la communication, Moussa Moïsilla à la culture ou encore Maurice Anda Kouyaté aux affaires étrangères. Dans son discours, le secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, a lancé à la foule, je le cite, qu'il est évident que la candidature de Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour rassembler les Guinéens. Si votre souhait est sa candidature, vous êtes seul décideur, il vous écoutera. Les soutiens pro-Doumbouya se renforcent alors qu'aucune date pour le référendum constitutionnel et pour le retour à l'ordre civil ne sont fixées. Dans son discours du Nouvel An, le chef de l'État avait présenté 2025 comme crucial pour la fin de transition. 3 mois auparavant, devant l'OIF, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a affirmait que toutes les élections se tiendront en Guinée cette année, mais la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo annonçait que cela serait impossible, surtout pour des raisons logistiques.
Il est 12h40 à Cancan.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, des conséquences déjà en Afrique après la décision du président américain Donald Trump de stopper les programmes d'aide des États-Unis. Donald Trump qui annonce par ailleurs vouloir couper les financements pour l'Afrique du Sud dans le collimateur du chef d'État américain et de son allié Elon Musk qui est sud-africain. Une loi autorisant sous certaines conditions la saisie de terres, parfois sans compensation. Et puis la Nigériane Tems, sacrée cette nuit, meilleure performance africaine de l'année aux Grammy Awards. Stupeur et inquiétude après la décision de Donald Trump de suspendre tous les programmes d'aide étrangère des États-Unis pour 90 jours. Un décret qui a aussitôt conduit à l'arrêt de certains de ces programmes financés par l'aide internationale américaine. Ainsi en est-il pour l'ONG Alima, basée à Dakar et spécialisée dans la médecine d'urgence et les soins médicaux. Alima est présente dans 13 pays, principalement en Afrique subsaharienne. David Bachet, plusieurs de ces programmes ont déjà dû être réduit.
Mais il faut dire que l'aide américaine, c'est 25%, un quart des financements d'Alima. Et ces derniers jours, l'ONG a effectivement déjà reçu 5 ordres de suspension pour des projets médicaux en situation de crise au Cameroun, au Tchad, en Haïti et au Mali. Je vous propose d'écouter Henri Leblanc, il est directeur adjoint d'Alima.
Nous, on est assez inquiets sur des pays comme le Mali où on met en œuvre sur des financements américains des projets dans des districts sanitaires comme Niono, Massina, Bandiagara, des zones où l'accès aux soins est très, très, très fragile. Ça veut dire des patients qui ne seront pas traités, des bénéficiaires qui n'auront pas accès à du suivi médical. Pour les 90 jours à venir, si nous devons suspendre les activités, c'est à peu près 40 000 patients qui n'auront plus accès aux soins.
Alors les activités concernées ont immédiatement été réduites, mais elles n'ont pas été fermées en attendant d'y voir plus clair. Quelques exemptions au décret signé par Donald Trump ont été annoncées, par exemple pour les médicaments essentiels à la survie. Mais le manque d'indications fournies par l'agence d'aide américaine complique encore les choses, Henri Leblanc.
Les informations du USAID ne nous permettent pas de nous assurer que, malgré les exceptions dont on nous a informé ces derniers jours, les activités d'Alima sont sécurisées. Ce dont nous avons besoin assez urgemment, c'est de clarification pour savoir ce que nous pouvons continuer comme type d'activité médicale et ce sur quoi nous devons trouver des alternatives, sachant que trouver des alternatives prend du temps et que ce temps, c'est des patients que nous ne pourrons pas toucher.
Et si les financements américains devaient être remplacés, eh bien Elima estime à 1 million de dollars pour la seule période des 90 jours de gel, la somme à trouver en urgence.
Et pour en savoir plus sur les conséquences de l'arrêt des programmes d'aides étrangères des États-Unis, vous avez appelé David Bachet, Jean-Baptiste Velu, spécialiste de la politique étrangère américaine. Il est notre invité dans 5 minutes. Donald Trump qui déclare par ailleurs couper tout financement des États-Unis à l'Afrique du Sud. Ce dimanche, il accuse le pays, je cite, de confisquer les terres et de traiter très mal certaines catégories de personnes. Alexis Bedu, ces déclarations interviennent en fait après la promulgation d'une loi d'expropriation par le président Ramaphosa, son homologue sud-africain.
Oui, Donald Trump, très offensif, il coupera tous les financements jusqu'à ce qu'une enquête sur la situation soit achevée, dit-il. Alors la situation dont il parle, c'est en fait la loi d'expropriation sud-africaine. Elle autorise la saisie des terres, parfois sans compensation, pour, je cite, « promouvoir l'inclusivité et l'accès aux ressources naturelles ». Une volonté de rééquilibrage dans un pays où la majorité des terres sont détenues par la minorité blanche. Sauf que cette réforme divise dans le pays et au-delà, le milliardaire sud-africain Elon Musk, très proche de Donald Trump, s'est positionné contre, dénonçant une loi raciste. Ce lundi, Cyril Ramaphosa a tenu à clarifier la situation. Il affirme que l'Afrique du Sud n'a procédé à aucune confiscation arbitraire de terres et que la réforme agraire respecte le cadre constitutionnel du pays, car Pretoria s'inquiète. L'aide américaine à l'Afrique du Sud, c'est environ 440 millions de dollars par an. Une immense majorité est reversée au programme de santé.
Les sports du football. À 17 ans, il est la nouvelle pépite du tout-puissant Mazembe, le club de Lubumbashi. Faveur dit Bongeli, 3 matchs avec les Corbeaux, 2 buts pour 3 passes décisives.
L'humilité en prime, Pascal Mwangala.
Faire fi des médias qui ont tendance à trop l'encenser, Faveur Dibongeli espère plutôt continuer à apprendre aux côtés de ses aînés et des coachs pour grandir.
Les réseaux sociaux, quoi que ce soit, donc j'ai pas d'abord dans ma tête. Moi, je dois atteindre les sommets du foot d'abord, travailler avec humilité, donc à écouter le coach, à écouter les consignes de vieux au terrain.
Inspiré par Cristiano Ronaldo, le jeune attaquant des Corbeaux a une marge de progression qui promet, selon Alexandre Jurin, coach adjoint du TP.
Faveur Di commence à être beaucoup plus efficace. Au tout début, dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la finition, il pêchait un peu et à force de travail, il commence à progresser là-dessus.
Sylvie Meya, journaliste des sports de Top Congo FM de Kinshasa, compare plutôt Bongeli à Trésor Mputu, star incontesté du football de RDC des deux dernières décennies et qui était arrivé à Mazembe à l'âge de 18 ans.
Bongeli, lui, il a 17 ans. À une année près, il a le flair, il est technique, avec le travail, avec l'encadrement, avec l'environnement propice. Ce garçon-là peut faire plus, pourquoi pas, nous faire ressentir ce que Trésor n'a pas pu nous faire ressentir de plus.
Pour beaucoup d'autres Congolais, Faveur Dibongeli est simplement une étoile faite pour briller. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Et j'ajoute que le championnat congolais est à nouveau à l'arrêt suite aux événements dans l'est de la RDC. Le match qui devait opposer Maniema Union à l'étoile du Kivu de Bukavu ce dimanche n'a pas eu lieu. Le club de Bukavu n'a pas pu faire le voyage depuis que le conflit s'est intensifié. La Nigériane Tems est devenue cette nuit à Los Angeles la nouvelle reine de l'afrobeat nigérian. Elle a été consacrée aux Grammy Awards meilleure performance africaine de l'année pour son titre Love Me GG devant des poids lourds comme Wizkid ou Burna Boy. Une consécration pour Tems, dont c'est le deuxième Grammy, Olivier Roger.
I need your loving, so fresh, so clean.
Wow, dear God, thank you so much for putting me on this stage and bringing me this team.
Elle a remercié Dieu, elle a aussi remercié sa mère, présente avec elle sur scène, et enfin son équipe. Comme à l'habitude, Tems a fait les choses avec professionnalisme et beaucoup de sensibilité, deux qualités qu'elle distille dans la conception de ses chansons. Beaucoup sont composées avec le beatmaker italo-ghanéen Guilty Beats. C'est notamment le cas pour le titre qui lui a valu cette nuit la victoire, Love Me JJ, chanson afro-soul des années 90, remise au goût du jour et qui cumule rien que sur YouTube plus de 20 millions de vues et d'écoutes. De son vrai nom, Temilade Openi, Tems avait déjà remporté un Grammy en 2023 pour un titre de rap mélodique en compagnie des rappeurs Drake et Future. Cette fois-ci, son talent n'a pas eu besoin de collaborateurs pour s'exprimer. Tems possède une voix et surtout un sens mélodique peu commun. Sa victoire est aussi le triomphe d'un genre musical qui a moins de 15 ans d'existence, l'afrobeats, cette pop mondialisée au rythme africain, simple et consensuel. L'afrobeats est devenu un pilier du showbiz planétaire.
Tems, meilleure performance africaine de l'année au Grammy Awards. Il est 13h48 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce lundi 3 février.
Le nouveau dirigeant syrien en visite demain en Turquie où les autorités s'inquiètent de la situation dans le nord-est, dans les zones kurdes. Ce matin, un attentat à la voiture piégée a fait 15 morts dans la ville syrienne de Manbij. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles pour parler de défense aujourd'hui. Emmanuel Macron plaide de nouveau pour davantage d'investissements dans le secteur et défend la préférence européenne en matière d'achat d'armement. Les 27 évoquent aussi les menaces de guerre commerciale brandies par Donald Trump. Manière de faire inutile et stupide, dit le Premier ministre polonais, président en exercice de l'Union européenne. Les conservateurs allemands sont réunis en congrès ce lundi au lendemain de manifestations monstres dans plusieurs villes du pays contre leur alliance avec l'extrême droite pour faire voter un texte sur l'immigration la semaine dernière. La vie politique en France et pour la première fois le recours au 49-3 par le Premier ministre, cette mesure qui permet de contourner le vote du Parlement. François Bayrou prévoit d'y avoir recours sur le budget de l'État et sur une partie du budget de la Sécurité sociale cet après-midi. Et puis le réalisateur français Christophe Rougi a condamné pour agression sexuelle sur l'actrice Adèle Haenel, agression commise lorsqu'elle était enfant. 2 ans de prison ferme sous bracelet électronique.
On le voyait dans le journal avec l'ONG Alima, le décret de Donald Trump suspendant l'aide humanitaire et l'aide au développement a déjà des conséquences dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Jean-Baptiste Velu, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, spécialiste de politique internationale américaine et cofondateur de l'Observatoire de la politique extérieure américaine, répond aux questions de David Bachet. David Bachet et Jean-Baptiste Velu, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle de Paris, spécialiste de politique internationale américaine. Un petit souci de toute évidence avec cet élément. On y revient dans quelques minutes. Dans les deux semaines qui viennent, nous vous proposons de découvrir chaque jour à 7h l'un des 10 finalistes du prix RFI Découverte. Le nom du lauréat sera rendu public le 18 février et vous pouvez voter jusqu'au 16 février sur le site du prix Découverte RFI 2025. Aujourd'hui, on commence avec la rappeuse camerounaise Joyce Babatunde. Le titre s'appelle Simon Simon. Bam, 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 bam. Bum 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 bum. Yo, I got the axe. Bum bum bum. Now the EGG by the axe. I guess I got the EGG too though. Yo, I got the axe. You can call me Malcolm. From Conrad, from Compton, move like a phantom. And I ride these airwaves like a dragon. Queen Kalissa with the black mane. Defy gravity, I'ma scoop planes. Makeda Amina Makeba, the queen incarnate of the father. Mufasa of Judah, the ruler, Ken Schooler. Man the flow, then the oohs and the ahs. Walk these bars like Simona. Croon and groan like Simona. Don't care what time I'm dead. My thunder is your father. Figure, I ping yang my wawa, but the bottle. My heart and my truth, them I'm a double. I offer it up, I'm coughing it up. Rapid, active, catch the massive contagion. Breeding them seeds of dynamic expression. Lyrical, spiritual, ethical. Infinitely musically radical. Limitless, give me less. So a mess, I'll flip it and rap it. I guess I'm Nicholas, woo! But you can catch me. I did like a weird, will be hard to break me. Baby Shaq, you can't play me. I'm a son of God, queen of soul. With a flow like Badu, kind of art, what have you. Queen mother of the... Joyce Babatunde, finaliste du prix RFI Découverte. L'aide humanitaire et l'aide américaine au développement suspendue par Donald Trump. Jean-Baptiste Velu, spécialiste de la politique internationale américaine, est l'invité de David Bachet.
Ce lundi sur...
Jean-Baptiste Velu, bonjour.
Bonjour.
Le décret signé par le président Donald Trump, qui gèle l'aide internationale américaine pour 3 mois, a déjà des conséquences très concrètes, avec des programmes qui ont dû fermer du jour au lendemain à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner la mesure de ces conséquences immédiates ?
Ah, les conséquences sont dramatiques aux quatre coins du monde, hein, que ça soit des programmes de déminage, le programme PEPFAR sur la lutte contre le sida, les programmes d'aide alimentaire, l'aide aux réfugiés, les programmes de lutte contre la désinformation en Russie, l'aide à la démocratie en Iran. Voilà, je pourrais vous citer une vingtaine d'exemples.
Et les pays africains sont en première ligne ?
Et les pays africains sont en première ligne, notamment les pays les plus dépendants de cette aide extérieure. Donc, il est clair que ce retrait américain, même temporaire, va créer un vide qui bénéficiera à d'autres puissances.
Des exemptions ont déjà été annoncées sur l'aide alimentaire la plus urgente, sur les médicaments essentiels à la survie. Ces exemptions, est-ce qu'elles permettent de limiter la casse ?
Je dirais oui et non, parce que en fait l'administration Trump a coupé les vivres dans beaucoup de cas et n'a pas toujours regardé ce qu'il y avait au bout de ces différents programmes. Donc on voit déjà des programmes d'aide alimentaire, de distribution qui sont coupés. Donc au-delà de ces exemptions, je ne crois pas que l'administration Trump ait un regard très précis de ce qui est recouvert par ces fonds dans différents pays.
Les ONG se plaignent également du manque de clarification de la part de l'agence d'aide américaine.
Absolument, c'est très radical, je dirais, et on voit la même procédure ou la même méthode d'action sur le plan intérieur avec une mesure précipitée pour couper les fonds fédéraux vers les États, qui a été retoquée par une cour fédérale, mais d'un point de vue international, ce n'est pas le cas.
Elon Musk, le collaborateur du président américain qui s'est vu confier une nouvelle agence chargée de réduire les dépenses publiques des États-Unis, a presque annoncé pendant le week-end que l'agence d'aide américaine USAID pourrait être tout simplement fermée. C'est une option envisageable réellement ?
Alors fermé, je ne sais pas, mais sûrement absorbé par le département d'État. Oui, ça fait partie des débats qui sont sur la table. Quand on sait qu'il décrit cette USAID comme une organisation criminelle, on comprend mieux la panique des différents fonctionnaires, mais aussi des ONG qui travaillent avec cette agence.
Qu'est-ce que ça veut dire une agence d'aide internationale qui est qualifiée de criminelle ?
C'est une bonne question. On a du mal à comprendre la conception du service public et de la politique étrangère qu'a cette administration Trump et puis qu'a Elon Musk, hein, qui, je le rappelle, n'a pas été confirmé, contrairement à d'autres secrétaires d'État, hein, n'a un rôle que très illégitime à la tête de cette agence qui n'est pas un ministère, donc le fameux département Dodge, donc... d'optimisation, d'efficience, d'efficacité gouvernementale. Si ça a l'air un petit peu orwellien, c'est que ça l'est à mon sens.
Pour rappel, et puis pour qu'on prenne encore une fois la mesure de cette menace, l'aide américaine, ça représente quoi sur le total de l'aide humanitaire et au développement dans le monde ?
Les États-Unis sont tout simplement le premier pourvoyeur d'aide extérieure dans le monde. Même si on regarde de manière relative, hein, on est plutôt à 0,20%.
Du PIB.
Voilà.
Donc c'est important pour le monde entier, mais c'est pas si gros pour les Américains.
Voilà, exactement. Les enquêtes d'opinion montrent que les Américains pensent que l'aide extérieure représente 20% du budget américain. Vous voyez le décalage entre 0,20 et puis 20%.
Ils croient que ça fait 100 fois plus que ce que ce n'est dans la réalité.
Exactement. Et donc, c'est pour ça que l'aide extérieure a aussi une valeur symbolique au sein de l'électorat, d'un électorat nationaliste qui pense que les États-Unis dilapident l'argent du contribuable dans les quatre coins du monde.
Dans les quatre coins du monde et en Afrique tout spécialement, où USAID, vous allez me confirmer, c'est plus de la moitié de l'aide internationale ?
Oui, et ça dépend des pays. Hein, pour des pays comme l'Éthiopie, par exemple, ça peut être une grande majorité des ressources dont ils disposent. Et pour l'aide internationale, de manière générale, si on exclut l'aide multilatérale, ça reste une des premières ressources.
Et on peut aussi rappeler que cette menace qui pèse sur la pérennité de l'aide américaine, elle arrive après une réduction déjà importante de l'aide européenne ou française.
Alors si on regarde les chiffres de l'aide extérieure de manière générale, il est vrai qu'il y a eu une baisse ou du moins un détournement de l'aide qui est de plus en plus utilisé pour la gestion ou la sous-traitance de l'accueil des réfugiés et donc qui se fait au détriment notamment de l'aide au développement.
Et puis il y a aussi des cas comme le Mali où l'aide française a carrément été interdite et où l'aide américaine était d'autant plus importante.
Oui, effectivement, dans des pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou même partout en Afrique, le retrait de l'aide américaine s'ajoute à une Europe qui est de moins en moins présente et tout cela va bénéficier à l'aide extérieure chinoise dont l'objectif reste l'accès aux ressources, notamment les minéraux critiques, ou l'aide russe qui se caractérise par le déploiement de milices. Donc vous voyez que l'aide...
Oui, c'est une aide militaire, c'est pas une aide humanitaire.
Voilà, exactement.
Et c'est une aide militaire payante.
Oui, la caractéristique altruiste, entre guillemets, car il y a toujours des intérêts économiques des Américains, va, je dirais, disparaître au profit d'une aide plus militaire du côté de la Russie ou plus intéressée encore du côté de la Chine.
Jean-Baptiste Velu, merci beaucoup.
Jean-Baptiste Velu, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle de Paris, invité de David Bachet. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et c'est ainsi que se termine cette demi-heure africaine, quelque peu perturbée par des soucis techniques ou informatiques, hein, vous voudrez bien nous en excuser. L'édition a été réalisée et préparée avec Laurent Corot, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain Nicolas Sûr. Vous restez sur notre antenne. Dans une minute sur RFI, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
Priorité. Côté Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Mercredi,
la septicémie, une infection à traiter en urgence absolue.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Les crises économiques et politiques au Venezuela ou au Nicaragua les ont poussés à l'exil. Les Latino-Américains représentent désormais 14% des habitants de la capitale espagnole Madrid, un changement qui fait grimper les prix de l'immobilier.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.